C'est un petit marteau, mais il peut faire de grandes choses. Ainsi parlait Laurent Fabius il y a tout juste 5 ans, au moment de conclure, avec un coup de marteau à la tribune, la COP21 qu'il présidait et qui s'achevait donc avec la signature de l'accord de Paris. Bonjour Barbara Pompili.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, ministre de la Transition écologique depuis juillet dernier. L'ambition il y a 5 ans était de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés, si possible même 1,5 degré. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, nous allons plutôt vers un réchauffement de 3 degrés. L'accord de Paris était-il surtout au fond une victoire diplomatique ?
C'était une victoire diplomatique, mais ça a été bien plus que ça. Aujourd'hui, quand je me déplace à l'international, j'étais encore en Italie hier, on me parle systématiquement de l'accord de Paris. Ça a vraiment été un marqueur très fort et ça a été un moment où on a engagé l'économie mondiale dans la décarbonation. Maintenant, on n'y est pas. On n'y est pas encore. On a énormément d'efforts à faire encore. Mais attention non plus à ne pas tomber dans l'autre sens. Le monde a changé depuis 2015, clairement. Quand on voit qu'en 2015, par exemple, rien qu'en France, il y avait encore 10 centrales à charbon et 10 centrales à fioul. En 2015, là, en 2022, il n'y en aura plus. Quand on voit que la voiture électrique en 2015, c'était quand même considéré comme quelque chose de complètement exotique. Là, en Europe, on a vendu là 1 million de voitures électriques ou hybrides électriques cette année. Et même les constructeurs à l'époque nous disaient il y aura à peu près 5% du marché en électrique en 2030. On est maintenant en 2020 à 14% du marché. Donc en fait, ça explose. Et donc oui. La trajectoire n'est pas encore complètement respectée, ça c'est sûr, et il faut se battre parce que sinon on va avoir des gros problèmes. Mais par contre, le monde change, le monde a changé et on a entamé le bon changement.
Alors la trajectoire, les objectifs, on a l'impression que souvent c'est ça en fait avec le climat, que ce soit au niveau mondial, au niveau européen, au niveau français, on se fixe des objectifs et on a l'impression que déjà c'est un résultat en soi, le fait de fixer des objectifs. Par exemple, hier, voilà, l'Union européenne a fixé un nouvel objectif collectif, réduire d'au moins 55% les émissions de CO2 d'ici à 2030 par rapport à 90 pour viser la neutralité carbone en 2050. Neutralité carbone en 2050, que visent aussi les États-Unis de Joe Biden, la Chine, c'est objectif 2060. Tout ça, c'est très loin. On se félicite évidemment de ces objectifs, mais finalement, le résultat, l'action, c'est pas l'objectif, c'est pas de prendre un objectif, c'est de l'atteindre.
Oui, évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, il faut faire les deux. Si vous vous donnez pas d'objectif, vous savez pas où vous devez aller. Donc, il faut des objectifs et il faut des objectifs réalistes. Et l'objectif qui a été obtenu hier de moins 55%, donc dose des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 pour atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est pas un gadget. C'est très important et ça a demandé...
Est-ce que c'est très réaliste?
Ou ben justement, si vous voulez qu'on y arrive en 2050, il faut qu'on ait des objectifs intermédiaires en 2030. Sinon, on va se réveiller en 2045 en disant « Oh, ben on n'y est pas ». Donc, et ces objectifs, ça passe pas comme ça. Je peux vous dire que la semaine dernière, je parlais avec mon homologue polonais. Pour l'homologue polonais...
Et on sait qu'il a fallu les convaincre.
Voilà, c'est dur et du coup, il nous dit qu'il faut nous aider. Mais par contre... Objectif, c'est bien. Si on trace pas le chemin pour y arriver, ça ne sert à rien. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est pour ça que c'est dur, parce que ça demande un changement de culture et ça demande vraiment à mettre les outils appropriés dans ce qu'on va faire sur la loi climat suite à la Convention citoyenne. C'est exactement ça. C'est les mécanismes, le chemin, tout ce qu'il faut pour réussir à arriver à ces objectifs.
On va en parler dans un instant, mais encore une chose sur cet accord européen, donc sur les réductions d'au moins 55% des émissions d'ici à 2030. Il y a une critique qui est faite là depuis hier par les ONG, Barbara Pompili, par rapport à ce nouvel objectif, c'est que cette réduction de 55% est nette, c'est-à-dire qu'elle inclut les puits de carbone naturels comme les forêts, les sols dans le calcul. Ça veut dire qu'on compte sur les forêts pour assurer une partie de la baisse. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques?
Je réponds que... Si on n'avait pas inclus ces puits de carbone, l'objectif serait plus de 55, mais il serait de 52, je crois. Donc, enfin, franchement,
ce qui reste plus, quoi qu'il en soit, que les 40.
Voilà, ça reste largement plus, et ça permettait quelque part de rassurer aussi un certain nombre d'États qui ont beaucoup de forêts, par exemple, et qui les entretiennent et qui ont besoin de montrer aussi que les forêts jouent un rôle. Donc, c'est pas pour ça qu'il faut se cacher derrière son petit doigt. On va avoir toujours des tensions entre ceux qui veulent aller moins vite et ceux qui veulent aller vite, mais l'enjeu là. On est tous dans le même bateau. On a une seule planète, donc il faut qu'on emmène tout le monde. Et pour emmener tout le monde, il faut pas laisser, faut laisser personne sans solution. Donc oui, quand on a un pays qui a 70% de son électricité au charbon, on peut dire qu'il a pas fait assez d'efforts et puis dire ben ils ont pas fait assez d'efforts, tant pis pour eux. Ou alors on se dit bon ben maintenant on en est là. Donc comment on fait pour les emmener dans le bateau avec nous? Comment on fait pour que des personnes, et ça va se poser assez vite, des personnes qui vont devoir rénover leur logement pour qu'il soit plus efficace et qu'il émette moins de gaz à effet de serre, qui n'ont pas les moyens de le faire, comment on fait pour que eux aussi ils puissent le faire et qu'on les emmène avec nous? Comment on fait pour que des gens qui n'ont pas de qui ont qu'une voiture et qui peuvent pas faire autrement, ben on les emmène, etc., etc. Toute la question c'est du comment pour que tout le monde soit emmené dans ce bateau du changement.
Alors justement, au niveau de la France, les objectifs qui permettraient de respecter l'accord de Paris ne sont pas non plus tenus jusque-là. Pourtant, à l'époque comme aujourd'hui, il y a une volonté politique affichée. Pourtant, la sauvegarde de la planète, l'urgence qu'il y a à agir n'ont jamais autant été un sujet, une priorité aussi largement partagée. Alors, qu'est-ce qui coince finalement Barbara Pompili aujourd'hui?
Oh bah, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui coince, c'est que on est toujours confronté entre les objectifs qui sont des objectifs qui s'inscrivent dans le long terme et puis bah, les urgences. Ah ben Madame Pompili, quand même, vous n'y pensez pas. Vous avez vu, en ce moment, on est en pleine crise Covid.
Qui vous dit, Barbara Pompili, vous n'y pensez pas en ce moment?
Si vous saviez le nombre de personnes qui me le disent. Non, mais parce que c'est pas le moment. Parce que là, il y a une crise Covid, mais il y a toujours quelque chose pour dire que ça n'est pas le moment. Parce que, mais vous vous rendez pas compte, on risque de perdre des emplois. Non, parce que la transition écologique, c'est comme toute transition. Il peut y avoir des emplois qui soient perdus, mais il y en a d'autres qui vont être créés. Toute la question, c'est comment on organise ça, comment on se prépare, comment on anticipe. Moi, je le dis souvent, mais moi, j'ai grandi dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. On savait que les mines allaient fermer. Tout le monde le savait, ça a été mal anticipé, ce qui fait qu'on a aidé les mineurs qui ont été, mais on n'a pas pensé la reconversion économique du territoire et on le paye encore maintenant. Donc tout ça, ça s'anticipe. Plutôt que de dire c'est pas le moment, ma bonne dame, il faut dire comment on fait pour y arriver et comment on investit. Le plan de relance qu'on met en place aujourd'hui, ça permet de financer tout ça. Donc ne soyons pas frileux. Profitons, entre guillemets, de l'occasion qui nous est donnée de revoir nos modèles économiques et notre culture pour se lancer dans l'avenir et accompagner tout le monde. Et j'insiste bien sur le fait que personne ne doit rester au bord du chemin. Beaucoup de transitions doivent être faites, y compris en agriculture par exemple. Bah, les agriculteurs, si on leur donne les moyens de le faire, s'ils sont pas tout seuls, eh ben ils feront avec nous parce que eux aussi ils veulent changer l'agriculture.
Vous portez donc le projet de loi issu des travaux de la Convention citoyenne sur le climat, Barbara Pompili. L'ambition, on la rappelle, faire baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici à 2030 par rapport à 90, dans un esprit de justice sociale. Vous avez présenté les premières orientations cette semaine. Emmanuel Macron réunit les membres de la Convention lundi. Est-ce que ça va encore beaucoup bouger d'ici à la présentation en Conseil des ministres fin janvier?
Oui, pour une partie, je pense. Alors, on a quand même là un texte qui commence à se consolider. On a aux alentours de 70 articles, ça peut bouger un peu par-ci par-là, qui reprennent quand même une grande partie des propositions de la Convention citoyenne. Après, il y a encore des arbitrages, justement, sur les sujets qui demandent le plus de calage, qui demandent la meilleure organisation possible. Je pense à la rénovation des logements, par exemple, où là, oui, il faut vraiment qu'on ait un dispositif qui fonctionne.
Alors, par exemple, parce que effectivement, on sait que tout le monde n'a pas le même avis sur la question. Certains vous reprochent de ne pas avoir tout repris. D'autres disent il y a effectivement de nombreuses propositions qui sont reprises, mais souvent, elles sont un peu en dessous par rapport à ce qu'elles étaient au départ. Par exemple, il est question d'interdire les vols domestiques s'il y a une alternative en train en moins de 2h30, alors que la proposition initiale, c'était moins de 4h. Sur le logement, précisément, on va vers la fin de la location des passoires thermiques en 2018, mais sans acter l'obligation 2028, pardon, mais sans acter l'obligation de rénover pour les propriétaires occupants. Ça, justement, est-ce que c'est quelque chose qui est encore en discussion? Est-ce que ça fait partie des points qui vont évoluer?
Ça fait partie des points qui vont être évoqués, en tout cas, je le sais, parce que les citoyens m'ont dit, devant le président de la République...
Oui, mais est-ce que lui, il est...
Bah, le président de la République souhaite rencontrer les citoyens, et il l'a dit, pour les écouter, pour écouter leur point de vue par rapport à ce qui est en train de se préparer. Et évidemment, il se réserve le droit de tirer des conclusions des débats qu'il aura avec les citoyens. Donc, on verra lundi, mais je suis d'accord avec vous, il y a une question essentielle de cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et donc, il faut que quand on prend des engagements, qui sont des engagements qui ne sont pas pris pour rien, si on prend un engagement de baisse des émissions de gaz à effet de serre, c'est parce que le réchauffement climatique est en cours et que si on veut atténuer ces effets, il faut absolument limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Là, on le voit maintenant. Avant, on pouvait penser que c'était très théorique, mais enfin, les inondations, maintenant, on les voit. Donc, il faut le faire. Et donc, si on prend des engagements, c'est parce qu'on sait que c'est... les tenants qu'on va réussir un peu à atténuer les effets. Eh bien, si on fait des projets de loi qui ne sont pas en accord avec ces engagements, on sera nous-mêmes face à nos contradictions. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire en sorte que le projet de loi, mais pas lui tout seul, il y a aussi des actions à côté, que ce projet de loi réponde aux engagements que nous avons pris.
Oui, mais alors justement, dans une tribune publiée sur le site du JDD que vous avez co-signé avec des parlementaires et d'autres membres de l'association que vous avez créée en commun, vous écrivez « Pour respecter nos engagements climatiques, nous devons rompre avec le réflexe toujours ancré des successions de petits renoncements pour des motifs souvent légitimes ». C'est étonnant de lire cela, Barbara Pompili, au moment même où l'exécutif est accusé de petits renoncements sur ce projet de loi avec tous ces bémols qu'on a cités. Oui. S'il faut aller plus loin, alors pourquoi on ne va pas déjà au niveau de ce qui était proposé ?
Oui, on a publié cette tribune avec mes amis d'En Commun parce que, justement, j'aime bien le nom En Commun en plus parce que ça représente tellement ce qui est en train de se faire. C'est notre avenir, l'écologie, notre cohésion sociale, c'est ce que nous avons en commun. Et donc, si on veut préserver ça, il faut justement que tous ensemble, on puisse avancer. La question de la succession des petits renoncements, c'est pas quelque chose qui se passe maintenant particulièrement. C'est ce qu'on vit. C'est
ce qu'on vit sur le projet de loi, c'est ce que certains reprochent.
C'est ce qu'on vit depuis moi, depuis que je suis engagée en politique depuis 20 ans, c'est ce que je vois. Pourquoi ? Parce que encore une fois, il y a toujours quelque chose de prioritaire. Non, il faut toujours s'occuper d'autre chose. Donc,
c'est bien évidemment en train de se passer là.
Vous croyez que le monde a changé, est passé de blanc à noir ou de noir à blanc ou de noir à vert, on va dire, en 5 minutes ? Non, il y a encore des réflexes comme ceux-là qui nous sont opposés quand on a une volonté de changement. Et ces réflexes-là, ce sont des réflexes qu'il faut qu'on casse. Et c'est une volonté qu'on a et que moi je porte très fort au sein du gouvernement. Et je sais que je suis pas la seule du tout dans ce gouvernement à la porter. Le président veut le faire, sinon il aurait pas fait la Convention citoyenne pour le climat. Le fait qu'il fasse cet exercice-là, c'est un exercice qui est très risqué politiquement, mais qui est aussi un exercice intéressant parce qu'on essaye justement de redonner la parole aux citoyens, on essaye de renouveler un peu notre démocratie, donc il faut pas qu'on se plante. Et mais face à ça, oui, il y a toujours des volontés de freiner. Et donc, face à ces volontés de freiner, il faut une volonté politique de faire, il faut un courage politique de prendre un certain nombre de décisions, et surtout, ne jamais oublier que c'est tous ensemble qu'on y arrivera, donc il faut emmener tout le monde, qu'il faut accompagner tout le monde.
Est-ce qu'Emmanuel Macron va annoncer lundi aux membres de la Convention qu'il va organiser un référendum ?
Attendez, vous me demandez ce que va annoncer le président de la République ?
Il en avait parlé lui-même de la possibilité du référendum, et puis ensuite c'était plus dans la discussion, et là, voilà, on lit ce serait de nouveau, notamment pour réécrire l'article 1er de la Constitution.
Je vous confirme qu'il a toujours été mis sur la table qu'il était possible de faire un référendum. Mais après, je ne pourrais pas vous en dire plus, puisque je ne sais pas où en est la réflexion du président sur ce point.
Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique avec nous ce matin. Nous vous retrouvons dans quelques minutes, mais voici la revue de presse des idées, il est 8h30. Barbara Pompili, vous êtes toujours avec nous, ministre de la Transition écologique. Lors de son interview accordée aux médias en ligne Brut il y a 8 jours, Emmanuel Macron a parlé de ce sujet de la laïcité. Il a parlé du séparatisme, il a parlé de violences policières. Bref, il a parlé de beaucoup de sujets très délicats. Mais le seul moment où il s'est énervé, c'est quand il a parlé d'écologie. Pourquoi ?
Certainement parce que sur un enjeu comme l'écologie, qui est un enjeu très très dur, quoi qu'on fasse, de toute façon, on se fera reprocher soit d'agir trop, soit de ne pas agir assez. L'écologie, c'est le sujet sur lequel on n'arrivera jamais à satisfaire tout le monde. Et donc, là, aujourd'hui, on est en train de faire une loi qui est une loi qui va permettre des avancées qui n'ont jamais existé avant. Moi, je ne connais pas d'autres pays qui interdit des vols intérieurs quand il y a une alternative en train, par exemple.
Même si c'est 2h30 au lieu de 4h.
Même si c'est 2h30 au lieu de 4h. Je ne connais pas... j'ai pas vu de pays où on faisait un tel travail sur l'artificialisation. La bétonisation, c'est ce qui est en train de tuer notre biodiversité. Et c'est ce qui fait... que les inondations qu'on a sont aggravées, par exemple. Donc c'est du concret hein, dans la vie des gens. Moi, je vois pas beaucoup de pays qui font ça. Cette loi, quoi qu'il advienne, et aujourd'hui, il faut qu'on rehausse ses ambitions parce que elles ne sont pas encore atteintes. Mais quoi qu'il advienne, elle ne bougerait plus de ce qu'elle est maintenant. Ce serait déjà des énormes avancées et des avancées qui vont dans le bon sens pour l'environnement. Ben ça. Il y en a quelques-uns qui le reconnaissent, il y en a d'autres qui, même s'il n'y avait que cette loi, taperaient comme des sourds. Donc, mais moi, pour le coup, je serais la première si on n'arrivait pas à rehausser l'ambition, à me dire que c'est dommage parce qu'on perd une occasion. Mais
on a une loi. Que vous trouvez que pour l'instant, ça ne va pas assez loin, quand même.
Mais parce que je suis écologiste depuis 20 ans, parce que je suis pénétrée de l'idée qu'il y a absolument urgence à agir, mais que je vois aussi les marges de manœuvre que nous avons pour pouvoir accompagner tout le monde. Si on n'est pas bon dans le dosage, et si on n'est pas bon dans l'accompagnement, et si on n'est pas bon dans la manière dont on accompagne nos objectifs, eh bien, on se retrouve avec des blocages. Quand vous voyez ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, c'est parce qu'à un moment, le fait de donner un prix au carbone, c'est absolument essentiel. Il faut le faire. Sauf que la manière dont ça a été fait, des personnes se sont retrouvées sans solution en se disant, mais en fait, ils se sont retrouvés coincés. Il ne faut surtout plus que ça arrive. Et donc, il faut vraiment qu'on travaille à cela.
Oui, donc si
au-delà des slogans, si vous voulez.
Ouais. Mais donc, si les membres de la Convention voulaient aller plus loin, si vous voulez aller plus loin, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas plus loin? C'est ça, c'est que vous avez peur de la façon dont ces mesures peuvent être reçues, parce que aussi, on disait tout à l'heure, peut-être que ce n'est pas le moment quand on vit une période où déjà, il nous est demandé beaucoup d'efforts.
Alors d'abord, peur de rien, c'est une question de base. La peur est très mauvaise conseillère en action politique.
Non mais le « vous », c'est avec qui il englobe plus largement, l'exécutif quoi.
Non mais c'est le moment. C'est le moment parce que le réchauffement climatique n'attend pas que les autres problèmes soient réglés. Il ne s'est pas mis en pause, le réchauffement climatique. Donc il est toujours là.
Et donc qui est à convaincre dans cette histoire, Barbara ?
Vous savez, ce qui est intéressant dans l'exercice de la Convention citoyenne, c'est que on a des personnes qui ont été tirées au sort et qui étaient vraiment, pour certaines, pas du tout intéressées par l'écologie, de vraiment tous les milieux, de toutes les appétences politiques. Enfin, donc il y avait pas vraiment de mobilisation pour l'écologie au sein de cette convention citoyenne. Tout a changé. Quand le premier week-end, ils ont été confrontés à des scientifiques qui leur ont expliqué les faits. Simplement les faits, hein. C'était pas des militants, non, c'était juste des scientifiques qui leur ont expliqué ce qui était en train de se passer. Et eux-mêmes le disent, ils se sont pris une baffe, une énorme baffe. Et à partir du moment où ils se sont pris cette baffe, quel qu'il soit, ils ont bossé tous ensemble et ils sont arrivés à des propositions extrêmement ambitieuses, mais que eux considèrent comme les propositions qu'il faut faire. Donc, on voit que là, il y a une question aussi de peut-être que tout le monde ne s'est pas pris la baffe. Et que je crois que si toute la population française et mondiale se prenait cette baffe de la compréhension de ce qui est en train de se passer, peut-être qu'on n'aurait plus de problème de « oh là là, c'est pas le moment, oh là là, mais vous vous rendez pas compte ». Donc, et d'ailleurs, ils mettent dans leur projet de loi, enfin dans leur proposition, et qu'on reprend dans le projet de loi, des grands volets sur l'éducation à l'environnement, et qui paraissent comme ça anecdotiques, mais qui ne le sont pas. Si on réussit à faire que la conscience augmente sur ce qui est en train de se passer... Parce que tout le monde a entendu parler du réchauffement climatique, mais je ne pense pas que la conscience de ce qui se passe soit vraiment ancrée dans notre culture. Ben là, on pourra avancer. Et sans avoir peur, justement. C'est quand on comprend le problème, quand on le regarde en face, qu'on peut y apporter des solutions adéquates. C'est ce qu'ont essayé de faire les citoyens, c'est ce qu'on essaye de faire en portant ce projet de loi et toutes les mesures qui vont à côté. Et oui, On va se battre pour que ceux qui n'ont pas encore pris la baffe nous laissent avancer et qu'on les emmène avec
nous. Mais alors, pardon, mais qui est-ce qui n'a pas encore pris la baffe? Parce que avancer, le projet de loi, il vient du gouvernement. Les arbitrages, c'est Emmanuel Macron. Donc, ça veut dire quoi? C'est Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron est le Premier ministre. Et évidemment, ce sont eux qui prennent les décisions. Mais si. Encore une fois, si Emmanuel Macron n'avait pas voulu avancer sur ces questions-là, il n'aurait pas convoqué cette convention citoyenne, invité ses citoyens à participer, et il se serait pas engagé à reprendre ce qu'il voulait faire. Donc après, oui, il y a plein de secteurs qui s'inquiètent, qui nous disent que ça ne va pas aller. Mais quand on parle des secteurs économiques, moi je suis absolument convaincue que les secteurs économiques qui ne prennent pas maintenant le tournant de la transition écologique sont voués à mourir. D'ailleurs, c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez vu, mais cet été, il y a la grosse entreprise mondiale ExxonMobil, qui sont des gros pétroliers qui sont au Dow Jones depuis des dizaines d'années, qui occupent le terrain depuis un siècle. Eh bien, ils sont sortis du Dow Jones cet été. Parce qu'ils refusent de s'engager dans la transition écologique, eh bien, finalement, ils sont en train de s'écrouler. Donc, c'est en train de se passer. La question, c'est est-ce qu'on réussit à faire que ça se passe dans le bon timing?
Alors, après la présentation au Conseil des ministres fin janvier, donc on a bien compris que d'ici là, ça allait encore bouger quand même, sur certains points au moins. Le projet sera donc au Parlement au printemps. Vous avez dit à ce propos aux Parisiens, je sais que beaucoup de représentants d'intérêts divers vont tenter de minimiser la portée de tel ou tel point. Quels représentants de quels intérêts, Barbara Pompili?
Qui vont essayer de minimiser ce qu'on va faire. Oh bah vous les entendrez. Non mais moi j'ai besoin que on ait autour de nous des personnes exigeantes qui nous tirent vers le haut et qui nous rappellent les grands enjeux. Mais donc ça c'est pas du tout un problème, au contraire, c'est le fonctionnement de la démocratie. Après pour que le débat public soit un bon débat public, il faut être capable aussi de dire bon, ça c'est bon, on avance bien. Par contre, sur ce point-là, ça va pas. Mais comment on fait pour que ça avance? Quelle solution on trouve? Comment on fait pour que le secteur automobile qui s'inquiète, on puisse lui apporter des solutions pour qu'il avance, ce qui est en train de se faire. Comment on fait pour que les médias qui ont peur pour la pub se voient que le fait qu'on mette en place un certain nombre de mesures ne vont pas arrêter la pub d'un coup et leur empêcheront d'avoir les ressources qui leur permettent de vivre, etc., etc. Tout ça, c'est un travail de fourmi.
Et qu'est-ce que vous attendez justement du travail parlementaire sur ce texte? Est-ce que vous pensez que ça, comment dire, la façon dont il a été élaboré, qui est donc très particulière avec cette convention citoyenne, va changer quelque chose à la façon dont les élus vont s'en saisir, eux qui justement sont élus?
Oui, alors en tant qu'ancienne parlementaire, je peux vous dire que moi, quand j'ai vu arriver cette convention climatique, je me suis un peu posé des questions sur comment fonctionnent nos institutions, quelle est la place de tout ça, et nous, les parlementaires, on se retrouve comment? Ça bouscule un petit peu. Mais moi, je trouve que c'est bien qu'on fasse des exercices de réflexion sur notre démocratie. Après, les parlementaires, et ça aussi, je peux vous le dire en tant qu'ancienne parlementaire, c'est quand même assez rare qu'ils aient un texte de loi, les premiers jets d'un texte de loi très avancé, les premiers jets avant le passage en Conseil des ministres. Là, le Conseil des ministres est prévu en janvier, le 27 janvier, et les parlementaires, là, ont déjà récupéré l'essentiel des mesures du projet de loi. Et donc, ils vont pouvoir déjà commencer à travailler. Donc, le fait qu'ils aient le temps de travailler sur ce projet, je crois que ça leur donnera la possibilité de l'étoffer, de l'améliorer, d'y apporter leur touche, puisque n'oublions jamais que dans notre démocratie, c'est encore au Parlement que se vote la loi et c'est une bonne chose.
Pour revenir à notre sujet de départ en 5e anniversaire de l'accord de Paris, les rejets de CO2 devraient connaître une baisse de 7% en 2020. C'est inédit, mais c'est un effet de la pandémie. 7%, c'est ce qu'on devrait faire chaque année, justement, pour globalement, pour tenir la trajectoire de l'accord de Paris. Là, il y a des craintes sur le fait que ça reparte de plus belle, avec la relance qui va suivre la période d'arrêt que nous avons connue. Alors, en l'occurrence, la France est un des pays qui consacre une part importante de son plan de relance à des mesures de transition écologique, 30 milliards. Mais dans le même temps, les aides à des secteurs très polluants ne sont pas conditionnées, éco-conditionnées. Est-ce qu'il n'y a pas là une incohérence, Barbara Pompili?
Oui, alors vous faites bien de souligner que globalement, quand on quand on prend les deux pas de recul et qu'on regarde ce que nous faisons au niveau de la France sur le climat, on est considéré, y compris à l'étranger, comme bons élèves. Parce que le plan de relance est un plan de relance qui est ambitieux et globalement, la législation qu'on met en place est une législation qui est regardée à l'extérieur. Donc d'abord, faut aussi de temps en temps se dire que oui, c'est pas si mal. Et d'ailleurs, nous avons baissé nos émissions de gaz à effet de serre depuis 10 ans, ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Hein. Mais en France, parce que vous parliez des 7%, en France, si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, il faut qu'on baisse de 3% nos émissions.
On est à 0,9.
On est quasiment 2019. À 1. Et donc il faut que les mesures qu'on met en place là nous permettent d'atteindre ces 3. C'est ambitieux, c'est-à-dire que nous, en fait, on a fait un tiers de l'effort en 20 ans et on doit faire 2/3 en 10 ans pour que tout le monde comprenne. Donc ça veut dire qu'il faut une marche. Donc oui, je vous confirme que ça demande qu'on aille plus fort et plus vite, mais rien de nouveau sous le soleil.
Barbara Pompili, vous restez avec nous pour le dernier quart d'heure des matins, du samedi, il est 8h45.